commencement était la parole, nous dit l'évangile de Jean. Une parole qui nous a appelés, tous, qui nous a appelés par notre nom. Une parole qui nous a appelés à nous mettre en route. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Par elle, nous avons la vie. Par elle, Dieu fait de nous ses enfants. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à vous tous qui êtes parmi nous aujourd'hui et bienvenue à Samuel Amédro qui nous fait l'amitié de venir prêcher aujourd'hui. Il est président de la région Île-de-France pour l'Église protestante unie de France et il nous fait l'amitié et l'honneur de venir ici. Et je sais que ça a été compliqué parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il a un emploi du temps très chargé. C'est pour ça que nous avions pris ce rendez-vous il y a à peu près 9 ou 10 mois. Donc merci encore à lui de venir faire la prédication aujourd'hui et vous pourrez échanger bien sûr avec Samuel à l'issue de ce culte, même si nous n'avons pas encore repris nos habitudes de café ou de petits pots après le culte. J'espère bien que ce sera le cas d'ici quelques semaines, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Voilà, et donc, comme je le dis et comme nous le disons chaque dimanche, quelle que soit votre appartenance, quelle que soit votre origine, soyez accueillis dans cette maison comme dans la vôtre, dans l'esprit du protestantisme libéral qui nous anime. Et je vous propose de prendre, donc, vous avez tous la feuille de spontané et le livret de cantique. Nous commençons donc par le premier spontané. Dieu, ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies. Nom de route au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance les nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Et je vous propose de nous lever et de chanter ensemble le psaume 36, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
écoutons la volonté de Dieu pour nous. Dans la lettre aux Galates, nous lisons « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Je vous propose, en restant assis, de chanter le deuxième spontané. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion, parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. La façon dont nous disposons des ressources de notre planète, la façon dont nous détournons le regard des malheurs des autres, proches et lointains, la façon dont nous restons sourds aux appels de ceux qui ont besoin de nous. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force pour nous remettre chaque jour à l'ouvrage. Amen. De vous lever pour écouter l'annonce de la grâce du Seigneur. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et nous chantons le cantique numéro 266, les strophes 1, 2 et 3.
Oh, Jésus, mon Père,
Prions. Dieu notre Père, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit qui souffle sur le monde, du commencement jusqu'à la fin des temps. La grande souffrance des hommes, notre grande souffrance, est de t'avoir perdu ou de te perdre encore, ou de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous sommes privés de mémoire et d'espoir. Mais ta parole, si nous savons l'entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Dieu, notre Père, ouvre nos portes intérieures pour que passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen.
Avant de lire le texte biblique que j'ai choisi de partager avec vous ce matin, je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation qui me permet de continuer mon tour des églises de notre région et de connaître le réel de l'église et ne pas être enfermé dans un bureau. En fait, vous me faites un cadeau en m'invitant, comme ça, dimanche après dimanche, je tourne dans les paroisses de la région, parce que ça me permet de ne pas me sentir un apparatchik. Ça me permet de me sentir au plus proche du réel, parce que le réel, c'est vous, le réel, c'est l'église, quand l'évangile est proclamé. Et je suis au service de cela, à votre service, et je voulais vous saluer aussi de la part des 68 autres églises locales que nous avons dans la région et qui en ce moment même célèbrent le culte. Vos frères et vos sœurs vous saluent et ensemble nous essayons d'être des témoins à peu près fidèles autant que possible. Donc merci, et donc nous allons partager un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 5. Je lis du verset 11 jusqu'au verset 21. Nous savons donc ce que signifie reconnaître l'autorité du Seigneur. Et nous cherchons à convaincre les gens. Dieu nous connaît parfaitement et j'espère que, au fond de nous-mêmes, de vous-même, vous nous connaissez aussi. Nous ne voulons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous désirons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Ainsi, vous aurez de quoi répondre aux personnes qui tirent leur fierté des apparences extérieures et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Et si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous presse, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin que tous, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes humaines. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité, alors éclaire-nous et rends-nous saints par ta vérité. Amen. Nous cherchons à convaincre les gens. Nous cherchons à persuader les gens, selon une autre traduction possible. Que faut-il penser de cette volonté de convaincre, de persuader, d'argumenter, développer un raisonnement pour tenter de prouver qu'on a raison et que ce que nous connaissons est vrai? Si l'on s'en tient à ce registre du vrai et du faux, mis en œuvre par l'apologétique, la volonté de convaincre, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui sonne faux dans le royaume de celui qui a besoin de revendiquer, de prouver, de démontrer qu'il est dans le vrai. Comme s'il n'en était pas tout à fait certain lui-même et qu'il avait besoin de lire une confirmation dans le regard des autres. Si je réussis à te convaincre, alors je me serais prouvé que j'ai raison. N'y a-t-il pas là une sorte d'aveu de faiblesse implicite? Il y a aussi quelque chose de mortifère, c'est-à-dire qui porte la mort dans cette volonté de toujours convaincre, de toujours avoir raison. Le christianisme n'est-il rien d'autre qu'une doctrine de plus, opposable à d'autres, une marchandise comme une autre pour laquelle il conviendrait de développer l'argumentaire le plus convaincant possible pour réussir à refourguer notre camelot? De tout temps, et je cite là un dominicain qui s'appelle Dominique Collin, le christianisme a été tenté de s'imposer, de considérer ses opinions plus vraies que celles des autres, de prétendre à l'universel, tout en faisant de l'impérialisme. C'est un dominicain qui vous le dit. Bien sûr, la théologie dogmatique a toute sa place dans l'élaboration de notre foi, parce qu'elle se doit d'être dite avec des mots, des idées, des raisonnements logiques, de la rationalité pour être audible, pour sortir de l'anonymat, de l'ineffable de l'expérience personnelle. Mais il y a un hiatus, une disproportion que Paul avoue et dévoile devant nous. L'apôtre Paul dit, en effet, « Si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. » Comment voulez-vous convaincre de manière efficace quand Dieu se trouve du côté de la folie, du déraisonnable, de l'inattendu, de l'inconnu, du pas encore connu, du radicalement autre, aurait dit Karl Barth? L'humain, lui, n'a pas le choix, ne peut pas déposer son cerveau. Il n'y a pas un vestiaire à cerveau à l'entrée de ce temple. On vous a demandé de le garder avec vous, n'est-ce pas? Il a besoin, l'humain, de mots, de grammaire, de réflexion, de logique, pour dire ce qui est important pour lui. Faut-il alors essayer de convaincre les autres que Dieu est du côté de l'invraisemblable, de l'impossible, de ce qui n'existe pas encore, même potentiellement, même pas en rêve? Parce que tout simplement, il est devant nous, dans ce qui peut advenir, et non derrière nous, dans ce qui a déjà eu lieu. Que faire de cet écart radical? Y a-t-il des ponts possibles entre la différence infinie de Dieu, qui ne se laisse enclore dans aucune limite, dans aucun déterminisme, dans aucune rationalité, dans aucune impossibilité, Dieu est totalement souverain, disait Calvin. Et l'humain, de l'autre qui, et c'est tout à son honneur, veut saisir, choisir, décider, et pour cela cherche toujours à comprendre, pour essayer de penser par lui-même, poussé par sa volonté de vivre en homme libre, en quelque sorte. Pour tenter de résoudre ce souci, le christianisme a traditionnellement emprunté deux chemins qui me semblent aussi erratiques l'un que l'autre. Les uns ont cherché à résoudre l'impensable et l'incroyable en le solidifiant, j'allais dire en le pétrifiant, dans une croyance venue se substituer à une foi vivante. Un dogme à avaler tout cru par la vertu d'un sacrifice intellectuel. Et c'est ainsi que, pêle-mêle, la résurrection des morts, la virginité de Marie, l'eau changée en vin, la Trinité, l'inspiration des Écritures, etc., etc., sont devenus, voyez-vous, des chapitres d'un catéchisme qu'il conviendrait d'accepter sans trop poser de questions, si l'on veut appartenir au clan et prendre sa carte du parti. Ce que je crois aller le demander à Rome, par ici, dogme de l'inhérence des Écritures ou théologie de la gloire et de la toute-puissance par là. La croyance, voyez-vous, les amis, transforme une opinion en un pseudo-savoir qui, jusqu'à preuve du contraire, s'affiche comme une certitude inébranlable. Mais pour celles et ceux qui refusent ce sacrifice intellectuel, tout cela tombe dans le trou noir de l'insignifiance, de l'indifférence qui gagne la plupart de nos contemporains qui, décidément, n'arrivent plus à s'intéresser à ces enjeux-là. Tout ça est bien futile, tout cela disparaît, et ils s'abstiennent en votant par leurs pieds, ils ne viennent plus. L'autre chemin emprunté par le christianisme pour tenter de résoudre cette aporie consiste à réduire la fracture par un discours théologique qui rejette du côté de l'obscurantisme archaïque tout ce qui excède notre capacité de raisonnement et de connaissance dite scientifique. Tout ce que je ne suis pas capable de comprendre n'existe pas ou alors est considéré comme un archaïsme à rejeter. Cela concentre l'agir chrétien autour des valeurs dites chrétiennes, et il faudra me prouver qu'elles sont chrétiennes. La liberté, la paix, la démocratie, la non-discrimination, la tolérance, le bonheur, en transformant des processus vivants en des concepts abstraits, fumeux, voire verbeux. Je continue de citer Dominique Collin. Le projet de la modernité philosophique et scientifique fut aussi d'avoir raison de la foi, de faire rendre raison à la folie de la foi. Faire rendre raison comme on fait rendre gorge, vous voyez. De ce côté-là du christianisme, tout ce qui n'est pas compréhensible et rationnel se retrouve dompté, à raisonner à coup d'explications spécialisées, qui historico-critiques, qui sociologiques, qui psychanalytiques, que sais-je encore, toutes plus savantes les unes que les autres, et tant pis pour celles et ceux qui n'ont pas l'heure de maîtriser ces techniques de spécialistes. Sommes-nous prisonniers de ce dilemme impossible à choisir entre gober une dogmatique indigeste ou réduire l'évangile à un humanisme conformiste? Sommes-nous paralysés dans les raies, pris entre un conservatisme qui sait qu'il croit et un progressisme qui croit qu'il sait? Justement, l'évangile n'est-il pas cette parole qui rend possible ce qui nous paraît de prime abord invraisemblable et impossible? le don d'exister, tout simplement. Penser à notre existence en soi, improbable et impossible, et pourtant là. Pour reprendre encore une dernière fois les mots de Dominique Collin. Toute la vie de l'apôtre Paul paraît se rassembler dans cette vocation à l'impossible, imaginer des ponts pour tenter de réconcilier l'irréconciliable, inventer de nouveaux chemins pour réunir ceux qui ne fonctionnent pas ensemble, la folie de Dieu et la sagesse des hommes. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes des humains. Il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Ainsi, Paul se considère comme un ambassadeur pour le Christ, pour mener à bien cette mission de réconciliation. Car l'amour du Christ nous presse, dit-il. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici, chers amis, une vérité qui se dévoile presque comme un aveu d'impuissance, pour nous convaincre, pour nous persuader. Paul ne dispose d'aucun autre moyen que la supplique. Nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier. Ne résistez pas quand l'amour du Christ vous presse et vous remue. Aucun argument, aucune démonstration ne trouve ici sa place. De toute façon, que voudriez-vous démontrer à des morts? Nous avons discerné ceci, dit Paul. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il n'y a rien à démontrer à des morts. Il ne reste à Paul aucune autre possibilité que la supplique. Arrêtez de vouloir résister. Laissez-vous faire. Laissez-vous aimer. Il n'y a pas d'autre moyen. L'amour est le seul outil de l'évangélisation, le seul qui soit au service de la mission de Dieu et de l'œuvre de l'Église. Alors certes, au cours de l'histoire tortueuse du christianisme, la peur, la contrainte, la séduction, le calcul d'intérêt, le chantage, l'argumentation, la réflexion philosophique, la science, la sagesse ont tous et toutes été utilisées et le sont toujours pour tenter le forcement des consciences, pour essayer encore et toujours de convaincre et de persuader en forçant le passage. Mais de fait, ces moyens ne portent que des fruits pourris. Ce sont des œuvres des morts pour des morts. Seul l'amour nous presse. Et seul l'amour est en capacité de créer du neuf, de faire de nous des créatures nouvelles, dit Paul. Si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Et comment on ne peut forcer personne à se laisser aimer? Il ne le reste à l'ambassadeur, pressé par l'amour du Christ, que la supplique, la proposition insistante, persistante, persévérante, qui encore et encore revient à la charge, confiant dans la fragile puissance de cet amour qui jamais ne contraint. Parabole du cantique des cantiques, quand la Sulamite s'inquiète de ne jamais retrouver celui que son cœur aime. La supplique, c'est l'humble posture de celui qui a renoncé volontairement à toute technique de marketing, toute tentative de séduction, toute velléité d'efficacité dans la persuasion pour se livrer à genoux, entre les mains d'une promesse qui ne vit que d'être crue. Voyez-vous comme pour le lavement des pieds, un des seuls gestes que Jésus demande de refaire, sans beaucoup de succès, il faut bien l'avouer, d'en renouveler l'expérience, et certainement pas de le transformer en rite qu'on ferait une fois par an. Hein. Il faut se mettre à genoux devant celui que l'on veut convaincre. La seule place de l'ambassadeur n'est pas celle de surplomb, comme la mienne en ce moment, mais celle de celui qui sait que le premier venu est plus grand que lui, comme dit l'évangile de Matthieu au chapitre 20. C'est exactement cette posture servante à genoux que l'Église a été contrainte d'adopter pendant toute la crise du Covid, pendant toute la crise sanitaire, devant l'obligation qui lui fut faite de renoncer à faire venir les gens sur son terrain, dans ses églises, dans ses lieux de culte. Elle s'est trouvée dans l'obligation de renoncer à la posture de surplomb qui est la sienne habituellement quand elle parle depuis la chair. Internet est devenu le lieu d'une parole humble, simplement proposée, déposée là, comme ça, au pied de celui qui veut bien la ramasser, sans possibilité de persuader, de convaincre, parce que celui qui est sur Internet peut cliquer immédiatement et sortir sans autre forme de procès, sans autre force que la fragilité d'une parole nue, humble supplique, sans aucun pouvoir. Et pourtant, quelle force constatée, n'est-ce pas ? Quelle puissance révélée, quelle fécondité à ces paroles simplement jetées à la surface du web comme d'autres jettent leur pain à la surface des eaux, comme dit l'Ecclésiaste. Jamais autant de personnes ne sont venues assoiffées boire à cette eau jaillissante d'une vie vivante. Cela devrait nous interroger, n'est-ce pas ? C'est, je crois, cette attitude de supplique, la seule attitude possible face aux belligérants qui mettent le monde à feu et à sang. La supplique n'est pas impuissante, elle est persévérante, comme la pauvre veuve qui vient casser la tête du juge inique pour réclamer son droit à la justice. C'est la seule arme à notre portée pour changer le cœur de nos ennemis, les transformer de l'intérieur, en créant en eux-mêmes la crise de conscience qui leur fera arrêter le combat. C'est l'arme d'Abraham qui s'interpose entre Dieu et Sodome pour intercéder pour ses habitants. C'est l'arme de Martin Luther King face aux discriminations raciales. C'est l'arme de Nelson Mandela et de Desmond Tutu pour mettre fin au régime d'apartheid. Puissions-nous continuer à vivre de cette simple supplique ? Puissions-nous continuer à vivre de ce renoncement à la force qui contraint ? Puissions-nous continuer à faire confiance à celui qui nous presse d'aimer et de nous laisser aimer ? À mon tour, mes frères, mes sœurs, je ne peux ni ne veux rien d'autre devant vous, que me mettre à genoux pour vous supplier à mon tour. Au nom du Christ, nous supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Thank you.
Confessons notre foi. Je vous propose de vous lever pour écouter la confession de foi du foyer de l'âme. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, il a souffert, il est mort. Présent dans nos vies, il nous pardonne. Il nous montre le chemin, il est la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois que Dieu place sa confiance en nous. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix à tous les hommes. L'Esprit de Dieu crée et recrée la vie et le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Et nous restons debout pour chanter le spontané suivant. Je pense que vous vous joindrez tous à moi pour remercier chaleureusement Samuel Amedro pour cette magnifique prédication à partir d'un texte difficile, difficile à lire et difficile à expliquer, et qui résonne aussi beaucoup dans les travaux que nous faisons actuellement et la discussion que nous avons eue en particulier pendant l'AG sur la mission. Sur la mission, est-ce que nous sommes vraiment des ambassadeurs suppliants? Je pense que ça va pouvoir nous permettre de réfléchir à ça pendant les jours qui viennent. Je voudrais commencer aussi par une annonce qui est plutôt triste, c'est le décès de notre grande amie Simone Nedelec, qui est décédée la semaine dernière à la suite d'un cancer qui l'a emporté très rapidement, en 2 mois. Nous nous souvenons tous de la présence de Simone, qui a été extrêmement présente jusqu'au confinement, et malheureusement nous ne l'avons pas beaucoup vue après. Cette femme droite, souriante, libre, intelligente, dont la présence a illuminé ce temple pendant de longues années. Et je vous invite à regarder même le portrait d'elle qui était paru dans l'Amitié il y a quelques mois, qui est très intéressant. Peut-être que nous le remettrons sur le site web pour elle. Il y aura un culte donc pour son décès qui sera co-célébré vendredi prochain, le 20 mai à 10h30, qui sera co-célébré par Vincent Hubach et par Dominique Hernandez. Deuxième annonce qui est pour nous réjouir de ce qui s'est passé hier dans ce temple. Hier après-midi, vous savez qu'il y avait cette table ronde organisée par notre groupe Église Verte, dont le thème était sobriété et frugalité. C'était formidable. On a vécu 2 heures extrêmement intéressantes, animées par à la fois le pasteur Laurent Schlumberger, qui nous a parlé de la sobriété, et par un très brillant architecte qui s'appelle Philippe Madec, qui est un des pionniers de l'éco-construction et qui nous a fait une intervention également extrêmement intéressante. Donc merci au groupe Église Verte d'avoir organisé cette table ronde qui était fort intéressante et qui a réuni un certain nombre d'entre nous. Alors, autres annonces maintenant. En ce qui concerne l'épicerie solidaire qui, comme chaque dimanche, attend vos dons dans la pièce à l'entrée du temple, Il y a une nouvelle liste de produits qui a été affichée par Dominique dans l'entrée du temple, si vous voulez, pour les prochaines distributions. Mercredi 18, la semaine prochaine, le groupe biblique à 19h30 sur le thème de la guérison des corps et des personnes. Jeudi 19, une pause spirituelle comme d'habitude à 12h30 dans le temple. Et puis le conseil presbytéral qui se réunira également jeudi 19 à 20h. Vendredi 20, réunion des JMJ à 20h, également dans le temple. Samedi 21, vous avez reçu une annonce aussi pour ceux qui reçoivent les mailings du foyer de l'âme. Samedi 21, de 10h à 12h, nous aurons une visite à la chapelle royale de Versailles, qui est effectivement un monument qui est extrêmement intéressant à visiter, avec Fabrice Calais, qui fait partie de notre église locale. Il y a eu un article dans l'Amitié, et puis vous avez reçu un mailing à ce sujet. Il faut vous inscrire si vous venez directement en envoyant un mail à notre pasteur Dominique Hernandez. Dimanche prochain, le dimanche 22 mai, il y a le culte à 10h30, bien sûr, avec un baptême, le baptême de Laurine Lux. Et l'école biblique aura lieu à 10h30. À noter également, le dimanche 29 mai, un culte par le pasteur Marco Fornerone, qui, comme vous le savez, est parmi nous depuis un an, puisque nous avons mis à sa disposition l'appartement du 6e. Et pour qu'il fait une thèse actuellement, il avait pris une année sabbatique pour cela, et il nous quittera donc à la mi-juin, et donc il nous a semblé intéressant de lui demander de faire un deuxième culte qui sera fait donc le dimanche 29. Et pour votre information, nous sommes aussi en train d'étudier une demande de jumelage qui nous a été faite par l'église vaudoise de Rome, dont il est le pasteur, et nous pensons que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On doit en reparler en conseil presbytéral la semaine prochaine. Voilà. Il me reste l'annonce la plus importante, qui est celle de l'offrande. Ah, excuse-moi, Nicole. Est-ce que j'ai oublié autre chose ? Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager de certains d'entre vous ? Merci. Donc, dernière annonce, celle de l'offrande, importante, une vraie annonce de joie, de bonheur et de mission également. Et pendant l'offrande, je vous propose de vous lever pour chanter le cantique numéro 280, les strophes 1, 2 et 3. Prions. Dieu notre Père, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que, nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Dieu notre Père, nous te demandons de nous aider à faire partie des personnes qui ont un esprit de sagesse, qui ont une parole qui libère et qui renouvelle. Apprends-nous à laisser derrière nous les vieilles querelles, les rancunes qui nous pèsent. Apprends-nous à ouvrir avec nos prochains de nouvelles pages en tendant la main. Apprends-nous à pardonner. Toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui souffrent en Ukraine, en Russie, en Afghanistan, ces victimes de guerre, ces femmes réduites à l'esclavage, et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux que nous avons du mal à aimer, pour ceux auxquels nous n'arrivons pas à pardonner. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour nos responsables politiques, afin qu'ils trouvent ensemble le chemin de la paix, de la justice et de la liberté. Et tous ici réunis, nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons le dernier spontané. On peut se mettre debout, je pense. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et demain. Qu'il fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Allez dans la joie.